Tyler Harrison.
That's our same one.
Well, since the job, the first one made Marie-Jean Pérez about the law.
Good morning. My name is Marie-Jean Pérez. I'm with the police from Rio de Janeiro. I'm the co-chair. I have a question regarding parking the street. So what measures will be taken to improve the quality of the street access and parking for the neuro patients? It's a disaster right now. A disarray. No one with a wheelchair, cane, or walking feet like myself can get into the building without being at risk. I want to see what you've done about that.
I was able to see these things when I was in the
I asked my name, Ima Franco, who's our director of technical services.
Monsieur le Président, simplement pour répondre sur la question en termes de suivi, cette plainte-là a été faite par le CVSM il y a un an et demi à la ville de Montréal. On nous a promis, année après année, de corriger les poteaux. On nous avait promis qu'en début 2018, au printemps, qu'on referait la rue et les trottoirs, parce que l'enjeu, c'est vraiment les trottoirs quand les patients marchent en direction de la porte du neuro. C'est vraiment un dossier qui est à la ville de Montréal. L'équipe du neuro a aussi fait une plainte tout récemment, là, au mois de mars dernier, auprès de la ville de Montréal. On est en attente d'arriver.
Si ça peut aider, je pourrais t'écrire, Mme Zahn. Je ne la connais pas.
Je ne sais pas, franchement, non. Après un an et demi, d'expliquer aux politiques, aux fonctionnaires, bon, que ce soit nous qui t'aiment.
On va faire ça. OK. Ça m'en donne une question, ça répond à quelque chose.
La deuxième question vient de Nicole Savoie, du Neuro-Sociologie.
Bonjour, je m'appelle Nicole Savoie, je vous présente, je suis sur le comité du Neuro, je suis co-présidente. Et la question est un peu plus générale, qui concerne vraiment les services continus aux patients. On a une certaine inquiétude dans le sens que, si, oui, on devient des hôpitaux spécialisés, mais on a une crainte concernant la suite des services des patients qui se présentent à la spécialité et ensuite qui doit continuer à assumer des rencontres avec son GP, avec tout. Et parfois, on a eu l'exemple cette semaine, on a donné de Mme X va voir son docteur A le lundi, son docteur B le mardi, son docteur C le mercredi, son docteur D le jeudi. Et ni l'un entre l'autre, les médecins se communiquent pour consolider le dossier. Alors, on aimerait savoir comment vous allez intervenir pour s'assurer qu'une continuité des services à des patients.
Je vous remercie de la question. C'est un gros enjeu. Je l'ai abordé tantôt dans ma présentation quand j'ai parlé de coordination des soins. La population, je vous dis, qui présente une multitude de pathologies. Il faut s'assurer que oui, on traite chacune de ces pathologies-là correctement, mais en plus, il faut s'assurer de suivre la continuité, la fluidité des services. Et ça, dans nos institutions, présentement, c'est quelque chose qu'on peut vraiment améliorer. Je ne dirais pas que c'est idéal. On a certainement, à l'intérieur du CUSUM, à travailler sur la coordination des soins. Et là, il peut y avoir différents moyens qu'on peut prendre pour ça. Ça peut être des infirmières qui vont travailler avec certains groupes de patients. Puis on peut avoir des discussions sur les extraits. Par contre, on peut être aussi de bons partenaires. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut avoir une discussion avant tous les points tertiaires et quaternaires. J'exclus le cas de la Chine qui venait peut-être de communautaire, je mentionnais tantôt. Mais on a vraiment besoin de partager une responsabilité de coordination des choix. Bien entendu, les CIS, les CIUS, dont font partie des CLSC, les CHSLD, détiennent la plus grande partie de cette responsabilité populationnelle-là et de la nécessité de coordonner les soins. Mais par contre, on doit être des partenaires. Dans le passé, je connais pas la situation ici, je suis seulement dans troisième semaine de travail, je dirais qu'il est arrivé que des hôpitaux universitaires, on peut laisser ça de côté. On ne peut pas laisser ça de côté. pense jouer le rôle de mission tertiaire et quaternaire, mais en étant d'excellents partenaires avec les Suisses, les CIS, et s'assurer qu'on va essayer de coordonner les soins le plus possible. J'ai abordé tantôt les trois C, hein, coordination, collaboration, coopération, et c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler. J'ai aussi abordé la question du partenariat. J'ai déjà eu des rencontres avec mes collègues du deux Suisses, avec lequel on a le plus de liens, donc Dr. Lawrence Rosenberg au sud, du centre-sud, du centre-ouest du General Hospital. Et pour l'instant, M. Morin est occupé, mais il y a un bien successeur au sud-ouest, qui a aussi beaucoup d'interface avec le fusion en termes de clientèle. Il y a aussi beaucoup de nos amis de la Montérégie, qui a beaucoup de patients en venir aussi. Tous les patients qui sont dans le village de notre milieu, donc l'ouest de la Montérégie, l'Outaouais, l'Abitibi, les territoires nordiques d'Abidjans, les territoires Cree, les territoires Inuit. Donc, j'ai bien l'intention que j'ai déjà abordé des collègues de ces régions-là en disant on a besoin de se parler. On va d'abord vous entendre qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait moins bien, comment on peut améliorer la collaboration et la coordination des soins. C'est une préoccupation que j'ai comme médecin de famille aussi, parce que j'ai été à l'autre bout du continuum de service comme médecin de famille pendant une vingtaine d'années. Et je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qui va améliorer, qu'on doit absolument faire d'autres avec. On va y porter une attention.
Merci.
Merci, madame.
Troisième question, vous venez de Rosalind Alverson, je ne sais pas dans le bien.
Good afternoon. As a patient advocate, my concern is for the effects, notably, for the effects, notably, on infection control issues on the well-being of patients with a seemingly deteriorating housekeeping services at the gland. There have been numerous cuts to the housekeeping department over the years, especially on the units, due to lack of housekeeping supplies. For example, employees have told the patients committee that they can only get less than half of the cleaning tools they need on a daily basis, and on some days they have no tools at all, and that this is due to delays in repairing and maintaining equipment. The Glen public cafeteria is also unacceptably unkempt. The tables are filthy, sticky, the floors are dirty in the morning, and the washrooms are not adequately maintained given the amount of traffic in that area. My question is, what measures will the NUHC administration take to support the housekeeping department in providing a clean and healthy environment for patients, visitors, and staff? And how soon can we expect that these corrective measures to be implemented?
Okay, well, I thank you for your question, Mrs. Alderson. Hospitals should be clean. That's the first thing. It is the utmost importance because it helps infection control. It also reduces mortality and morbidity. This has been demonstrated in the literature a long time ago. When I talk to nurses, I always tell them, make sure you give out the right medication, to make sure that patients are hydrated, they are nourished, that they move around, they can go to the bathroom, and they are in a clean environment, and they're clean. So that's one of the things that I see from nurses. So I threw the installations at the Glen. I thought everything was not perfect, but the what you are saying about the public cafeteria, I will have to take a look. I haven't been there early in the morning. Washrooms, I know they are maintained, whether or not they are adequately maintained, but when I used the washrooms, I thought they were reasonably clean, and I saw workers keeping them clean on a regular basis. The other things that you address, like that you don't have the cleaning tools, that you don't have the equipment to do the cleaning, that we're not maintaining and repairing the equipment, that's new to me. I don't know if Richard Supersonne-Franco would like to answer and to address these concerns from Madame Anderson.
Thank you.
thank you for the question. It's following what you said. We've actually taken three very concrete actions since we moved to the Glen. There has been obviously an adjustment period. The first action is we hired an external consultant to help us with reorganizing the groups that our cleaning staff are assigned to ensure that we have a good balance of number of staff per sectors, and that's been in place now for a few months, and we're seeing already lots of progress there. We are also, the second action is we're working very closely with our colleagues in human resources to fill all of our vacant full-time and part-time positions. Housekeeping is a very large staff with a very high turnover rate, and we have ongoing challenges with keeping those positions staffed. So we did a very large blitz this year, and we're continuing to do that. So we're hoping to stabilize our staffing team and our staffing model. And lastly, we have looked at our budget. We are generally budgeted appropriately for the size of the institution, and we are, with the measures that we've now put in place, looking to stabilize that, and we're putting in place maintenance and service programs for our equipment so that we have a faster turnover of repairing our equipment that's not working.
Merci.
Lina,
la quatrième question vient d'Éminement, qui est du comité des usagers au CHUM.
I have two questions. The first one is, there were a number of patient programs that were cut from the MUHC, including My Toolbox, the Patient Education Office, and the Cancer Survivorship Program. The process by which these programs were abolished was a bit flawed, as patients were not consulted regarding these matters. When is the new CEO planning on revisiting this matter and reviving these programs? That's the first question.
I'll answer the first question. Thank you very much for your question. I'm happy to meet you today. This is not meant to be users from the meeting earlier this week. We did have a chance to meet. I think we were going to be in conference of the Department of Law. We will be reviewing the decision process for two of these three programs, Patient Education Office and the Survivorship Program. The first one, my two blocks, I won't be reviewing the process because we were told specifically by the ministry so that it was not in our mission. So we were specifically told that. So I will be reviewing the decision process for the two programs. One of these two programs, I think you'll have good news soon. The other one, we'll have to take a look.
Except that people don't go out into the community to receive the diagnosis of cancer. And My Toolbox is for a whole range of chronic diseases. And it saves the hospitals money. It's been proven in research. Anyway, the second question I have, le programme important pour les patients a été affecté par le manque de ressources, notamment les infirmières, sans toutefois que les ressources alternatives dans la communauté aient été déployées. Dans ce contexte, comment allez-vous protéger les droits des usagers de Cusum à des services continus et personnalisés? Comment s'assurer que tels services sont dispensés de manière prescrite, à savoir continuer et personnaliser, alors que le renfort de plusieurs programmes dans la communauté fragmente de plus en plus la trajectoire du patient qui doit souvent faire affaire avec le plus de l'hôpital communautaire, de clinique en partage, de CLC, etc. C'est juste pour ça.
En fait, cette question-là, Mme Noir, rejoint la première question qui a été posée aujourd'hui, je crois avoir répondu. Je pense que vraiment, il faut s'attacher avec nos partenaires des SUS, avec les CLSC, qui ont des cabinets de médecins de vie privés qui sont importants. Et on a un rôle à jouer dans le cadre de notre mission. Il y a des activités qui se tiennent ici, et on a une partie de responsabilité par rapport à ça. Mais en même temps, on ne pourra pas tout faire. J'ai été questionné par un journaliste qui m'a rencontré la semaine dernière sur est-ce que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin. J'ai répondu, est-ce que nous avons toutes les ressources dont nous avions besoin, si on faisait l'affaire tout ce qu'on voudrait, la réponse c'est malheureusement non. D'ailleurs, il y a très peu d'organisations dans toutes ces ressources. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a les ressources pour traiter nos patients convenablement qui ramènent bien, faire de la recherche au niveau mondial et former les futurs professionnels québécois. Ma première impression de trois semaines, c'est que la réponse est oui, mais si ce n'est pas le cas, on sera en mesure de réclamer ces ressources. Donc moi, dans le fond, dans les discussions qu'auront nos partenaires, les SUS, les partenaires des territoires, parce que les organismes au niveau par les comités des patients, on va avoir un rôle à jouer, bien entendu, mais qui va être lié à notre mission d'établissement sur-spécialisé et tertiaire et d'affaires. À la Chine, c'est un peu différent, vous l'avez mentionné, c'est un hôpital communautaire. Il est possible qu'à la Chine, on doit offrir un peu plus de services parce que c'est l'hôpital qui est à la communauté. Au QSUM, la gamme de services peut être un peu différente. Alors, mais on aura la chance de voir ces deux partenaires. Déjà, j'ai abordé ces questions-là avec mes deux collègues des SUS. J'ai mentionné que un de mes collègues, M. Morin, avait quitté son emploi après il a eu un transfert et maintenant le patron de Émo-Québec. Donc, qui était une institution importante. Le Dr. Rosenberg et moi l'avons discuté. Et j'ai inclus aussi le ministère de la Santé local, qui a un rôle de coordination pour assurer la continuité des soins et la coordination des soins. Et nous avions justement une conférence téléphonique hier sur ces sujets-là avec Mme Manon Boilly du ministère, M. Pierre Lazare, qui est sous-ministre à l'Organisation des services. Conversation durant laquelle on a abordé ces questions.
OK.
Merci, madame.
La prochaine question vient de Vincent Rosati. Bonjour, monsieur le président. On a, la question a été déposée de façon écrite. Je vous invite peut-être à répondre à la question au niveau de la continuité des soins entre la Chine et le CESM.
J'ai la question de Mme Rosati ici, c'est la même question à laquelle j'ai répondu tantôt, mais là, l'aspect de la Chine dans la question, OK, vous savez, il y a un outil de genre primary and secondary mission by la Chine. Je viens répondre à cette question-là en disant qu'il y avait des différentes missions qui sont différentes, puis qu'on devra peut-être offrir certains services à la Chine, qu'on n'offrirait pas au NOHC et vice versa. Je pense que c'est complet. Puis ce sont les mêmes éléments de réponse que j'ai apportés à tout le monde.
Merci. Dernière question nous vient de Mona Arsenault, du comité des usagers du Royal Québec.
This week, a patient committee member personally visited and inspected 72 washrooms spanning the adult and pediatric wings of the Glen sites. Of the 72, only 5 were reasonably accessible for frail and mobility-reduced persons. Some of the staff from the technical services have been very helpful in providing input as to the solutions to this problem. What measures can the administration take to support the technical services staff in actually implementing these solutions as quickly as possible so that we will see the majority of bathrooms as fully accessible and the dignity of our patients restored?
Thank you for your question. By law, our bathrooms have to be accessible to people with respect to mobility. So I would really like, if it is at all possible, that we share this information. Which platforms were not accessible out of the 72, and we'll take measures to make sure they're accessible, maybe not all of them, but making sure that in one given area there are some accessible platforms. So if you share this information with us, we'll act upon it.
Thank you very much.
That was my second question, I must say. About the organics.
Yes, sir. Yes, I have the second question. How much rent does the NUHC Glen site have to pay per month and to whom? What is the financial responsibility of the NUHC for unrented spaces at the Glen site? And how do you determine who to rent to?
Okay, this is a complicated question, many aspects. I don't know all the details. What I would consider, and if you agree, can you make your coordinates? I will send you a written answer on each of these points. Okay. I would add that we're looking forward to renting, to leasing these spaces very soon. We've got concerns around the metro station, I imagine?
The one?
In general.
In general.
So, and so we might have to meet very soon. Okay. There were delays that were linked to the court work that is being done now by the Associated Transport of Montreal. But we're moving forward with these. So if you take your phone number or email, we'll get back to you with all your answers. And then you could share them with the users on the air time. Okay?
Yes, thank you very much.
I think the first question, madam.
Merci. Ça complète, M. le Président, la période de questions, des questions pour les futurs.
Merci beaucoup, Richard. Je pense que ça a été une bonne année.